Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est une mesure exceptionnelle, sans doute du jamais vu dans un pays démocratique en temps de paix. 60 millions d'Italiens sont donc priés de rester chez eux. Il faut dire que le nombre de cas explose. En 24 heures, 97 personnes ont succombé au coronavirus en Italie. Face à une telle situation, c'est le système sanitaire italien qui menace désormais de s'effondrer. En Europe, pas de concertation. Chacun choisit sa stratégie. La France a opté pour le cas par cas et la réponse proportionnée pour tenter de ralentir la contamination. Emmanuel Macron a rappelé aujourd'hui que nous sommes au début de l'épidémie. Ce sont ces mots. Au même moment, la Chine communique, elle, sur une sortie de crise. Alors pourquoi l'Italie a-t-elle choisi une mesure si radicale? Quelles sont les autres stratégies européennes et notamment celle de la France? Faut-il croire les bonnes nouvelles qui viennent de Chine? L'Italie confinée et la France, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, ainsi qu'à New York et à Shanghai, vous assurez des missions de conseil en gestion de crise auprès des institutions. Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeur de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous avez précédemment publié « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire » aux éditions Lavoisier, c'était en 2009. Vous êtes une spécialiste, je le précise, de la résistance bactérienne. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Je rappelle votre édito d'hier, coronavirus, le game changer. Enfin, Paolo Levi, vous êtes correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Vous êtes également le correspondant du quotidien italien La Stampa. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous naturellement, Paolo Levi. Oui. Vous êtes romain. On va montrer la une du journal La Repubblica. Tutti a casa, en Italie. On s'est réveillé ce matin avec cette injonction. Restez tous chez vous. Vous avez de la famille en Italie, à Rome précisément. Comment est-ce que c'est vécu sur place depuis ce matin?
Oui, ce n'est pas un titre anodin, Tutti a casa, parce que Tutti a casa, c'est aussi un magnifique film de l'après-guerre de Luigi Comencini qui racontait justement la guerre, la Deuxième Guerre mondiale et notamment la résistance avec Alberto Sordi qui combattait en résistant contre les nazis et les fascistes.
Et c'est pas rien de faire cette comparaison.
Et en fait, aujourd'hui, notre pays, et je pense même l'Europe entière, est en guerre. Nous sommes en guerre, heureusement pas contre les nazis, heureusement pas contre les fascistes, mais on est en guerre contre quelque chose d'encore plus dangereux, parce qu'imprévisible, c'est-à-dire un virus qui est en train de se propager à une vitesse monstrueuse.
Dangereux aussi. C'est une menace qui a
la même envergure, en tout cas, d'une guerre. Et c'est tellement frappant. Hier, il y a eu cette interview d'un médecin urgentiste de l'hôpital de Bergame. Une interview glaçante où cet homme, à l'hôpital de Bergame, qui, je le rappelle, est une ville de province à 40 km de Milan, richissime, avec un système sanitaire hyper en pointe, c'est pas du tout quelque chose, c'est des hôpitaux qui marchent très bien d'habitude, et il en avait les larmes aux yeux parce qu'il disait dans cette interview qu'il était obligé de faire le tri, c'est-à-dire il était obligé de décider de la vie et de la mort des personnes.
Et il disait même qu'il choisissait ceux qui avaient le plus de chances de
s'en
sortir.
Exactement, comme en guerre.
Sur la réaction des Italiens à cette mesure?
Écoutez, il y a eu toute une première phase où dominait la psychose. Après, il y a eu une deuxième phase un peu plus fataliste. On disait, bon, la vie continue, etc.
Et là,
ça rigole plus. Je pense qu'à partir de hier, on est rentré vraiment dans le dur. Et les gens sont très angoissés. Ils sont abattus, ils sont surtout complètement éberlués parce que c'est quand même la première fois, je pense, dans l'histoire de l'homme qu'un pays entier, 60 millions de personnes, soit confiné à la maison, en plus dans une démocratie, parce qu'on l'avait vu en Chine, où il y a un régime qui peut gérer, etc. Dans une démocratie occidentale comme l'Italie, le fait de rester à la maison confiné comme ça, c'est... Et effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas souscrire à cette injonction.
On a vu
qu'il y a eu des mutineries, etc., au tout début. Mais je pense que maintenant, il y a une prise de conscience dans le pays, chez les citoyens, qu'on est face à quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire, il faut choisir. Le message qui vient aujourd'hui de l'Italie, des Italiens, c'est qu'à un certain moment, il faut choisir entre ce qui est plus important. Si notre activité économique est tout, ou la vie humaine. Alors, il faut comprendre qu'on est tous potentiellement très dangereux. Parce que si on a, par exemple, la rougeole, on a des boutons, ok, je
ça
le vois.
Voit.
Ça se voit, et donc je dis, ok, j'ai la rougeole, je reste à la maison. Mais la chose terrible de ce coronavirus, c'est que dans beaucoup de cas, 80% des cas, ça ne se manifeste même pas. Donc nous, on sort tranquillement, on va à la poste, on embrasse notre oncle qui a 70 ans et qui peut-être a une santé un peu vulnérable et fragile. Et voilà.
Mais que... ça, maintenant, vous considérez que, et encore une fois, vous avez des contacts avec des Italiens en particulier, votre famille qui est à Rome, le message là, il est passé. Quand vous dites « ça rigole pas », ça veut dire que là, cette fois-ci, les consignes, elles sont respectées.
Écoutez, les consignes ne vont jamais être respectées par un bloc total. Mais effectivement, les Italiens sont en train de démontrer une certaine discipline. Et ce n'est pas un peuple très discipliné. Donc, c'est d'autant plus frappant que ça. Aujourd'hui, en fait, c'est aussi une extraordinaire occasion, cette crise qu'on a, de faire preuve d'une valeur, au fond, de notre continent, de l'Europe, qui est la fraternité que vous avez inventée, vous les Français d'ailleurs, et que vous avez inscrit dans votre devise républicaine. Il faut faire preuve de fraternité, de bon sens. Si on attend que seulement les pouvoirs publics, l'État nounou, fassent les choses pour nous, on est mal barré. C'est en jouant en équipe, l'individuel et le collectif, qu'on pourra pulvériser ce virus, et je suis persuadé qu'on va y arriver.
L'appel au civisme de Paolo Levi. C'est vrai, c'est rare dans une grande démocratie, 60 millions de personnes à qui on dit rester chez vous.
C'est inédit, sauf en période de guerre. Et effectivement, on est dans un processus qui ressemble de plus en plus à une économie de guerre, une mobilisation de guerre. Et il faut être très honnête, ce qui se passe en Italie, qui est la reproduction de ce qui s'est passé en Chine, est un processus, comme on l'a pu l'entendre déjà par le président de la République, inexorable. D'autres pays sont en train de fermer l'ensemble de leur système scolaire.
C'est le cas de la Grèce à l'instant, qui ferme toutes les écoles, toutes les crèches, toutes les universités.
Dans quelques jours, on va probablement apprendre que l'Espagne va s'y résoudre. L'Allemagne se pose beaucoup de questions par rapport à la sous-estimation du virus, car comme ceci a été très bien indiqué, en fait, la pandémie est beaucoup plus large qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire que les porteurs qui ne sont pas malades, mais qui transmettent la maladie, sont beaucoup plus nombreux et ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, ils ne toussent pas, ils n'éternuent pas, voilà. Et donc, on n'a pas d'indication technique sur leur capacité à transmettre. En plus, ils transmettent vite et beaucoup, ce sont les indications que donnent les Chinois. Et du coup, on est face à une problématique qui est que nous sommes 3 semaines en retard sur à peu près tout depuis le début, y compris les Chinois eux-mêmes étaient 3 semaines en retard. Donc nous n'avons pas rattrapé les 3 semaines en retard. Nous ne sommes pas en situation de faire ce que 2 pays ont réussi à faire sans confiner tout le monde, Taïwan et Singapour. Taïwan et Singapour ont un test générique global, des mesures extrêmement précises, un contrôle social développé. Taïwan est beaucoup plus, entre guillemets, démocratique que Singapour, mais les deux ne sont pas la Chine non plus. Et ils ont réussi à avoir une situation maîtrisée, avec une mobilisation sociale considérable, une organisation qui date du SRAS. Ils n'ont pas oublié ce que nous faisons tout le temps, parce que nous sommes amnésiques. Une fois qu'on a échappé à un truc qui n'a pas eu lieu, c'est donc qu'il ne va pas avoir lieu. Or, nous avons un traitement de cette affaire qui est toujours le même. Négation, minoration, éjection. Ça ne va pas arriver. En tout cas, ça ne va pas nous arriver. C'est moins grave que ce qu'on dit. C'est une petite grippounette. J'ai relu ça tout à l'heure. Et de toute façon, on n'y peut rien et on va faire avec. Donc, on est dans ce processus qui est habituel chez nous, mais il faut le dire très clairement. Et d'ailleurs, le gouvernement fait une pédagogie de la crise. Il monte en gamme peu à peu. Parce que ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Grèce, ce qui va se passer en Espagne, ce qui va se passer en Allemagne, se passera mécaniquement en France, à la française.
D'accord, on va y revenir sur à la française.
Ou en même temps.
Vous parliez de guerre, ça me permet de rappeler cette phrase du général MacArthur qui est habilement rappelée dans l'édito du Monde aujourd'hui. Les batailles perdues se résument en 2 mots, trop tard.
Oui.
C'est ce que vous nous disiez, les trois semaines de retard. Qu'on n'a pas réussi. Vous utiliseriez le même mot, on est aujourd'hui en guerre contre ce virus à l'échelle européenne avec, encore une fois, et c'est ce qu'on commente en ce début d'émission, des mesures spectaculaires qui sont prises en Italie avec des chiffres du nombre de morts qui, je le disais en débutant cette émission, en 24 heures, plus 94 décès en Italie dans des circonstances comme celle-ci. Il n'y a pas d'autre choix que ce qu'ils sont en train de faire.
Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on ne doit pas se dire ça arrive aux autres parce qu'ils ont un système administratif différent ou parce qu'ils ont un système de santé différent. On doit se dire ce qui arrive aux autres va nous arriver. Et que le problème, ce n'est pas de savoir si on va prendre les mêmes mesures. vraisemblablement, on va les prendre. C'est quand il faut les prendre. Et ça, c'est la vraie question. Parce que vous avez raison, si on les prend trop tard, ça devient peu efficace. Et effectivement, tous les gouvernements ont toujours peur de les prendre trop tôt, avec différentes raisons. Ils se disent, si je les prends trop tôt, est-ce que je vais tenir? Est-ce qu'on va tenir plusieurs semaines, effectivement, dans des contraintes importantes? Et comme on l'a dit sur ce plateau, leur difficulté, c'est qu'ils ne savent absolument pas combien de temps va durer la crise. Et il y a toujours, en plus, au sein du gouvernement, une personne qui dit « ce type de mesure va entraîner la panique ». Or, c'est faux. Or, c'est faux. Ce ne sont pas les mesures qui entraînent la panique, c'est parfois l'absence de mesures cohérentes.
Il y a eu des mouvements de panique, pour le coup, en Italie, de gens qui sont allés faire le plein. On a vu ce qui s'est passé dans les prisons avec des gens qui...
Des mutineries. Il y a eu cette mort dans les prisons, des mouvements de foule dans les supermarchés. Déjà dans les semaines passées, quand seulement la Lombardie et la Vénétie avaient été confinées, c'est quelque chose de complètement inédit. Et les gens, effectivement, au départ, même les personnes qui étaient confinées dans les zones rouges qui avaient été décrétées au début, on cherchait de s'enfuir, bien sûr. Mais maintenant, on rentre vraiment, je pense qu'on rentre dans une phase...
Dans une autre phase
où
de
la
prise
population,
de conscience.
Oui, il y a une vraie prise de conscience. Et la chose importante, c'est que, disons, ce qu'est en train de faire aujourd'hui l'Italie, c'est un effort et un élan de solidarité qui concerne aussi tout le reste du continent européen. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher de freiner un maximum aussi ce virus et pour protéger aussi l'Europe entière.
On en reparlera tout à l'heure de l'Europe parce qu'il y a une visioconférence qui a lieu en ce moment sur la gestion du coronavirus, à la fois les conséquences économiques, mais aussi peut-être cette harmonisation des politiques. Un mot sur Emmanuel Macron. Il a eu cette phrase aujourd'hui. Il dit « ce n'est que le début de l'épidémie ». Ça fait 2-3 fois qu'il prend la parole pour dire « ça peut durer des semaines, voire des mois ». Quel effet cherche-t-il dans l'opinion? Il prépare les esprits, à ce qu'on vient de nous annoncer à l'instant.
Je pense qu'il cherche plusieurs choses à la fois. Il cherche à préparer les esprits au cas où ça devienne un scénario à l'italienne et qu'il faille prendre des mesures de cette ampleur. Et en même temps, je pense qu'il l'espère encore, ne pas y arriver et pouvoir faire différemment. Aujourd'hui, le gouvernement dit beaucoup, nous, on cherche à freiner. Si l'Italie en est arrivée là, c'est parce que son système hospitalier a été engorgé. Donc, on prend des mesures en amont pour se décharger sur la médecine de ville.
Il surveille vraiment ce qui se passe en Italie.
Oui, c'est un peu même un contre-modèle.
Ah bon ?
En fait, l'épidémie, manifestement, a 15 jours d'avance sur ce qui se passe en France. Et à chaque fois, la France se dit, je vais pouvoir faire différemment, et notamment en essayant absolument de ne pas saturer les hôpitaux. Donc, il y a plein de mesures annoncées pour faire des téléconsultations par écran, pour demander aux médecins.
On viendra, si vous le voulez bien, Cécile Cornudet, vraiment.
En tout cas, ils essayent de faire les deux à la fois, de freiner la progression de l'épidémie et de tout faire pour que la circulation en France soit encore possible et de ne pas, par exemple, décider des fermetures générales d'écoles pour que les mamans infirmières puissent aller travailler au lieu de garder leurs enfants. Enfin, tout ceci, ils ont les deux obsessions aujourd'hui en même temps. Et ce qui donne parfois des positions un peu contradictoires.
On va revenir précisément sur la stratégie française, qui est assez, en tout cas, assez différente. Vous avez parlé de contre-modèle, en tout cas, assez différente de la stratégie italienne. Je voudrais qu'on avance sur le premier portage. C'est avec solennité, hier soir, que le président du Conseil italien a annoncé le confinement de toute l'Italie, deuxième pays le plus touché après la Chine, une mesure d'exception, alors que le système sanitaire italien atteint ses limites, avec 9000 cas avérés et déjà 463 morts. Victoria Rouxel, Nicolas Baudry-Dasson.
Ce matin, à Florence, comme à Rome, des places, des rues, des terrasses, bien calmes. L'Italie tout entière s'est réveillée en quarantaine. Déplacements limités dans tout le pays. Quelques passants rencontrés dans la capitale découvrent ce nouveau quotidien.
Je vis ici. Et d'habitude, il y a toujours plein de gens. Mais ce matin, il n'y a personne. Ce n'est pas agréable, la vie comme ça.
J'ai vu les directives gouvernementales. Elles sont assez précises. Elles doivent être suivies et tout doit être fait pour qu'elles soient respectées. Aujourd'hui, c'est la première fois que je mets le masque parce qu'avant, je n'en portais pas.
La nouvelle est tombée hier soir. après les écoles et les universités fermées jusqu'au 3 avril, après les mesures de précaution pour faire ses courses, 1 mètre d'écart entre chaque client, ce sont désormais les lieux culturels et de rencontres qui ferment leurs portes. Même les stades de foot, temple des Italiens, n'accueillent plus de visiteurs. Hier, lors d'un match à huis clos, un joueur a brandi cette affiche « Tout ira bien, restez à la maison ». Le mot d'ordre martelé par le président du conseil.
Je m'apprête à signer un décret dont le contenu pourrait se résumer en une phrase. Je reste à la maison. Tous les déplacements doivent être évités, à l'exception de 3 cas bien précis. Pour se rendre au travail, pour des cas d'extrême nécessité ou pour des raisons de santé.
Après la Chine, l'Italie est le pays le plus touché par l'épidémie de coronavirus. Plus de 460 morts, 9000 cas recensés. Les hôpitaux sont saturés et manquent de moyens. Ce week-end, un groupement de médecins, d'anesthésistes et de personnels de réanimation a publié un document pour dénoncer la crise sanitaire en Italie. Leur présidente fait état d'une situation alarmante.
Compte tenu du flux de malades qui augmente d'heure en heure, du nombre restreint de lits de thérapie intensive et du fait que de nombreux médecins et infirmiers sont eux-mêmes atteints par le virus et en quarantaine, nous devons privilégier les jeunes et ceux qui ont plus de chances de s'en sortir.
Le désarroi et le chaos qui gagnent les prisons italiennes. Ce week-end, une dizaine de mutineries violentes, plusieurs évasions et au moins 6 morts à déplorer. En cause, la décision de reporter en avril toutes les visites aux détenus pour éviter la propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires.
Nous voyons que nos proches n'ont rien, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de traitement, ils n'ont rien. Nos maris ont des enfants et des femmes à l'extérieur qui sont inquiets et qui pleurent matin et soir.
Des mouvements de panique et une inquiétude immense pour l'avenir. Le pays, paralysé, s'enfonce dans une crise économique. Le gouvernement a annoncé débloquer 7,5 milliards d'euros et demander le soutien de la Commission européenne, une mesure jugée insuffisante par l'ex-ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini.
Budgétiser, aider immédiatement les familles et les entreprises, surtout les petites, avec non pas 7, mais 70 milliards. Que l'Europe ne perde pas de temps à discuter. Chaque jour perdu est un drame. Vouloir, c'est pouvoir.
Ce matin, lors de la messe au Vatican, et malgré les recommandations du gouvernement italien, le pape François a demandé aux prêtres d'avoir le courage de sortir et d'aller voir les malades atteints du coronavirus.
Tous à la maison, sauf les prêtres qui sont invités à se rendre au chevet des malades. Cette question, pourquoi la Lombardie est-elle devenue un foyer de contamination? C'est vrai qu'on a l'impression depuis le début de cette crise que l'Italie est davantage touchée, notamment que la France. Anne-Claude Crémieux.
Je ne sais pas si elle est davantage touchée, elle a été touchée avant nous. Et effectivement, c'est un exemple. Ils ont commencé il y a une semaine par un nombre de cas qui se chiffrait par centaines. Maintenant, ils sont à plusieurs milliers. C'est un petit peu la courbe que nous suivons. Et effectivement, c'est pour nous l'occasion de nous poser la question, faut-il prendre des mesures plus tôt pour éviter d'en arriver là? On a 2 modèles, en fait. On a le modèle de la Chine, qui a pris des mesures et effectivement très importantes et qui, semble-t-il, a réussi à contrôler les choses.
C'est le message qui est porté.
Et puis, on a les modèles des pays européens qui ont, comme l'Italie, qui ont été atteints avant nous. Et je crois qu'encore une fois, avec beaucoup de modestie, il faut se dire que nous allons vers ce scénario et réfléchir pour savoir s'il faut anticiper des mesures qui ont été prises par les autres.
C'est vrai que depuis le début, c'est l'Italie qui a pris les mesures les plus drastiques. On se souvient, au tout début, c'était l'Italie qui, dès le départ, avait supprimé, arrêté ses vols en direction de la Chine, en provenance de la Chine.
Non, mais moi, j'étais complètement impressionné, parce que c'était les jours... Moi, j'écris tous les jours des articles sur l'actualité française, et donc, ce jour-là, j'avais terminé un papier sur le deuxième ou le troisième vol de rapatriement de la France depuis Wuhan. Et donc, j'avais écrit mon papier, bouclé. Les Français de Wuhan sont rentrés. Ils vont être mis en quarantaine dans le sud de la France, etc. Et donc, je pensais que le problème, c'était ça. C'était ces Français-là. Mais entre-temps, il y avait des centaines de vols qui faisaient des allers-retours tranquillement entre Roissy-Charles de Gaulle et la Chine, de partout. Les vols n'avaient pas été bloqués. En revanche, l'Italie avait bloqué les vols. Non seulement elle avait bloqué les vols, elle avait mis des murs de personnel médical dans tous les aéroports. Alors moi, j'ai écrit cet article. J'ai pris mon avion à Orly vers 21h30 du soir. 1h20 après, j'ai atterri à l'aéroport Marco Polo de Venise. Et dès que j'ai mis le pied sur terre, j'ai trouvé effectivement en face de moi un mur de 12 personnes. En combinaison rouge, on aurait dit un film de science-fiction. Et ils nous ont pris un par un avec des lasers. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On est sur la Lune. Et ils nous ont vérifié la température et ils nous ont donné à tous un livret. Comme ça, avec toutes les indications et les instructions.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'Italie n'a pas failli.
Hyper préparé. Mais moi, écoutez, ouais. Je connais mon pays. Ouais. C'est un pays qui, généralement, voilà, on n'a pas... Ils ont été remarquables. Donc, la question, ils ont été remarquables aussi, ou en tout cas, ça a été un choix, peut-être aussi par les circonstances, dicté aussi par les circonstances, je ne sais pas, mais ils ont fait très rapidement beaucoup de tests. Alors, au 23 février, le nombre de tests réalisés en France était 457. Et en Italie, on était déjà à 6000. Alors, la question est-ce que ne se révèle que ceux qu'on relève, c'est-à-dire, est-ce qu'on trouve ceux... On trouve ce qu'on va chercher. Donc, moi, je me demande, est-ce qu'ici en France, ce virus circule aussi depuis belle lurette
et de la même manière qu'en Italie.
Exactement. Ouais. Et même parce qu'on parlait de Milan. Alors, si vous prenez une photo satellite de l'Europe vue de l'espace, on remarque tout de suite que la région de Milan et la Lombardie et la région de Paris et de l'Île-de-France, elles ont exactement la même morphologie. On est des locomotives économiques et financières incroyables. Nous avons un niveau d'échange hyper intense avec l'Asie, avec des allers-retours d'hommes d'affaires, etc. Donc, je ne vois pas comment est-ce possible qu'à Milan, on ait chopé, passez-moi l'expression, le virus, et à Paris, on soit complètement immunisé. Moi, ça m'étonnerait, franchement.
À la voir.
Oui, je crois que c'est intéressant de reprendre la géographie du virus. La géographie du virus, Wuhan, grand centre industriel qui est un des plus importants espaces de développement depuis des millénaires, la Lombardie, grand centre industriel, la France. Et donc, le voyage du virus, c'est le voyage de la globalisation, mais pas la globalisation de la semaine dernière, de la globalisation de l'ensemble des dispositifs de tourisme, de voyageurs, de commerce, depuis Marco Polo. Et donc, on est en train de redécouvrir la géographie de la réalité. Et donc, ce n'est pas un sujet frontalier, c'est un sujet de gestion des flux. Et ce qui est très bien dit, c'est que dans la réalité, le virus, il est là, il est latent, il est présent. Et ce n'est pas comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'est pas arrêté à la frontière. Plus personne ne croit à cette fable qui a pu marcher il y a quelques années parce qu'on avait des gens encore capables de raconter d'énormes mensonges à la télévision. Mais là, on est dans une pédagogie de la réalité où on sait qu'il est là. Et le choix qui est donné avec c'est ces ça. Fameux 15 jours, 3 semaines de décalage permanent, il est là. Mais il y a un autre système qui marche très bien et qui n'est ni chinois ni italien, celui que j'ai indiqué tout à l'heure. On ferait beaucoup mieux de se regarder un peu la gestion Taïwan-Singapour. Sauf que ce sont des pays qui ont investi dans leur système de santé. Ce n'est pas un investissement avec une gestion comptable visant à réduire en permanence les coûts pour avoir juste ce dont on a besoin. Et de ce point de vue, l'économie de la santé comme l'économie réelle, c'est devenu une économie en temps réel avec juste ce qu'il faut en temps réel. Il suffit qu'il y ait un élément du réseau de distribution pour que le système s'effondre. Nous n'avons pas beaucoup plus de lits disponibles que nos amis italiens. Comme il l'a indiqué tout à l'heure, l'hôpital de Bergame, c'est pas le sud-ouest de Naples. Hein, c'est un hôpital, enfin, c'est une région richissime et très très développé. Et nous sommes face à ces mêmes problématiques qui sont que effectivement beaucoup de personnels de santé sont atteints par le virus eux-mêmes. Ils sont en quarantaine, ils ne sont pas disponibles.
Vous parlez des moyens. Vous parlez des moyens. Il y a eu une polémique autour des respirateurs. L'assistance respiratoire est un des moyens de traiter naturellement les conséquences du coronavirus. On a laissé entendre qu'elle n'est pas suffisamment en Italie. Il n'y en a pas plus en France.
Non. Voilà. Et en plus, c'est 15 à 20 jours de traitement. Ce n'est pas juste un petit coup de respirateur et tu vas mieux. C'est des procédures longues, difficiles, complexes. Et comme on sait que le processus arrive, le problème, ce n'est pas le manque de solidarité vis-à-vis de l'Italie. C'est le fait qu'il n'existe pas de réserve naturelle de respirateurs. Et il n'existe pas non plus de réserve naturelle de personnel médical capable d'accompagner le respirateur.
Il y a le problème des tests aussi, et ce qui va dans votre sens, c'est qu'on a arrêté en France, faute d'un nombre suffisant de tests, de tester de façon systématique. On teste maintenant ceux qui ont vraiment de la fièvre et qui ont l'air de tousser. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a laissé entendre aujourd'hui que le comptage régulier du nombre de malades français, eh bien, ils allaient peut-être arrêter de le faire parce que c'est trop anxiogène, mais c'est surtout qu'en réalité, ils savent pas puisqu'ils testent pas de façon systématique. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup plus de malades en Italie parce qu'ils sont beaucoup plus testés ? C'est vrai que c'est une grosse question.
Juste un mot sur l'homme qui a pris cette décision-là. On n'en parlait pas beaucoup en France jusque-là. On parlait plus de Salvini et de Di Maio. Et là, on retrouve un président du Conseil italien qui, solennellement, s'est adressé à son pays en disant « j'ai besoin de votre aide, votre civisme et on va combattre ce virus-là ».
Oui, rassurez-vous. En fait, on le découvre ensemble,
cet
homme.
Ah bon ? C'est plus grave peut-être pour vous que pour nous.
Parce qu'effectivement, il est arrivé de façon assez discrète aux manettes du pouvoir. Très longtemps, il a été... très discret, on se questionnait même sur sa réelle envergure d'homme d'État. Et après, c'est vrai que parfois, la fonction habite, on est habité par la fonction et peut-être même par la crise. On l'a vu avec François Hollande, par exemple, au temps de la vague d'attentats en 2015. Et il s'est fait remarquer pour la première fois cet été pendant la crise politique avec Salvini, quand le gouvernement est tombé, et lui, il a dit « Bon, si toi, Salvini, tu ne veux pas te prendre, t'assumer tes propres responsabilités, je vais le faire moi. » Et là, on s'est dit « Ah non, mais en fait, il n'est pas si mal que ça, si lisse que ça, en tout cas. » Et là, il est en train vraiment de détonner parce qu'il est en train de prendre des choix, franchement, très, très difficiles.
Il n'y a pas de débat en Italie ?
Il est en train de mettre à l'arrêt un pays, la troisième puissance économique de l'Europe.
C'est mais il n'y a pas de débat en Italie sur cette décision-là ? Il y a une union nationale. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça pourrait susciter un débat de dire que c'est une mesure absolument folle.
Alors, la France et l'Italie sont deux pays extraordinaires, deux pays frères qui ont une passion commune, c'est la politique, le débat politique, la politique politicienne. On est toujours en train... Tout ça est suspendu actuellement. Tout ça est mis dans le congélateur pour un intérêt national et je dirais même européen qui nous dépasse. Et donc les gens, ils ont compris que pour une fois, la vie passe avant le reste.
Est-ce qu'ils s'appuient sur l'avis des experts ? En France, et on va le voir dans un instant, toute la stratégie du gouvernement, c'est de dire autour de nous, et on en parle souvent avec vous, Anne-Claude Crémieux, c'est de dire on s'appuie sur un avis d'experts, de spécialistes, de médecins, de virologues, etc. Est-ce que là, c'est une décision qui a été prise, assumée de manière politique, ou est-ce qu'il s'est entouré aussi de spécialistes pour défendre cette décision ?
Non, il n'y a aucun choix qu'il puisse prendre lui tout seul. Il n'a pas le profil ni le... Pour prendre de telles décisions. C'est clair que c'est des décisions qui remontent éminemment d'experts. D'accord. Et il y a aussi un précédent, c'est le cas chinois, même si on parle d'un autre système politique, etc., qui, comme vous le rappeliez, est en train de donner des résultats assez importants.
On va voir à la fin de l'émission. Anne-Claude Crémieux, comment on prend une décision comme celle-ci ? Pourquoi je me tourne vers vous ? Parce que vous avez analysé les politiques publiques face aux grandes épidémies. On ne peut pas prendre ces décisions de manière unilatérale sans effectivement consulter, ce que vous l'avez dit, les spécialistes, les experts, mais à un moment donné, on consulte ses voisins européens, on prend une décision. Ça paraît tellement incroyable comme mesure.
Je crois que l'expertise, tous les pays l'ont. L'expertise, c'est de dire qu'effectivement, les rassemblements, la proximité des gens favorisent la diffusion du virus. On commence à effectivement mieux connaître la contagiosité de ce virus, on voit bien que malgré tout, tous les pays réagissent différemment. Alors, quels sont les paramètres qui vont jouer ? Il y a des paramètres éminemment politique, c'est-à-dire effectivement l'anticipation que font les hommes politiques sur les conséquences potentiel de leurs décisions sur la vie économique, sur la vie, sur l'activité du pays. Et puis, on l'a vu avec l'Italie, il y a un élément majeur qui va jouer et qui va se surajouter à ça, c'est le coût en termes de vie humaine. Au fond, là, c'est clair qu'un élément qui a joué, c'est le nombre de décès et la capacité du système de santé à assumer les patients futurs. Et là, pour le coup, ils se sont dit, au fond, effectivement, l'impact sanitaire est tel qu'on doit prendre les mesures optimales. La France n'en est pas encore là, mais c'est clair que si elle arrive à ce type de situation, je pense que effectivement, les politiques considéreront les mesures maximale.
Et vous ne croyez pas si bien dire, puisque vous parliez du nombre de morts en Italie. J'ai commencé cette émission en vous parlant de 463 victimes du coronavirus. Ça, c'était les chiffres d'hier. On est passé, donc, en une journée, à 631 morts en Italie du coronavirus. Voilà pourquoi cette décision a été prise, précisément.
Et un élément qui est essentiel, et on l'a vu en Chine, encore une fois, merci aux scientifiques chinois de nous avoir communiquer en temps réel leur expérience. Un élément qui est très saillant, le pourcentage de morts a été différent selon les villes chinoises. Il a été important à Wuhan, là où au cœur de l'épidémie, il a été divisé par deux dans des villes moins touchées. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été repris dans un des plus grands journaux international. C'est en fait de faire la relation entre le nombre de patients et la mortalité. Qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit le fait que si le système de santé est engorgé, la mortalité va augmenter. Et par conséquent, face à ça, le gouvernement italien s'est dit « on doit faire le maximum ».
C'est ça, la décision elle a été prise parce qu'on avait un système sanitaire qui était tout simplement en train de craquer.
Si à l'hôpital de Bergame, qui est vraiment l'excellence, je dirais même au niveau mondial, parce qu'on est toujours, l'Italie est toujours première dans les classements sur la santé publique, etc. Et on est très très fort, c'est vraiment un fleuron national, notre système de santé. Si l'hôpital de Bergame, qui est censé être un des meilleurs hôpitaux de l'Italie, ne peut pas répondre à un tel afflux et doit faire le tri, c'est-à-dire décider de la vie et de la mort des personnes, c'est qu'on est, on a franchi une ligne et on est en guerre et donc il faut prendre des mesures de guerre. Et c'est pour ça
C'en est une.
Et je pense aujourd'hui que l'Europe même est en train de rentrer dans une forme de guerre.
Et c'est intéressant de vous entendre, Paolo Lévy, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, et vous avez utilisé cette expression-là, on voit bien qu'en France, ce que fait l'Italie est parfois montré comme un contre-exemple. Et on va le voir précisément avec la stratégie qui est utilisée et qui est choisie par les gouvernements français. Je vous donnerai la parole dans un instant. Je voudrais juste qu'on voit le deuxième reportage. Un ministre contaminé, le plus proche conseiller du président en quarantaine. 7 cas avérés à l'Assemblée nationale. Le virus circule, y compris désormais au sommet de l'État. Le président, lui, ce matin, s'est rendu à l'hôpital Necker, au service des urgences, pour défendre la stratégie française face au virus. Une réponse au cas par cas différencié. Walid Berissoul, Ilana Azincote.
Pas une seule poignée de main pour le président. Mais une visite de plus auprès des professionnels de santé. C'est sa 4e en 10 jours. Au chevet ce matin d'un centre du 15, le SAMU, déjà débordé d'appels, 6 000 par jour, 2 fois plus que d'ordinaire. Et le chef de l'État d'avertir, la guerre sera longue.
Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clair, lucide. Et puis la réponse, il faut assumer qu'elle sera différenciée. Parce que cette épidémie, d'ailleurs comme toutes les épidémies, elle n'est pas la même partout sur le territoire. Il ne faut pas considérer qu'il va y avoir, à un moment donné, à une heure donnée, dans notre pays, une grande bascule où tout va changer. Il faut qu'on reste extrêmement adaptable.
Tout faire pour éviter un scénario à l'italienne. Alors qu'inexorablement, l'épidémie de Covid-19 progresse en France. Dernier décompte, 1606 cas de contamination confirmés, 30 morts et de nouveaux foyers qui apparaissent. Dernier exemple en date, la Corse, avec 38 cas signalés à Ajaccio. Un nouveau cluster qui justifie, selon les autorités, la fermeture de tous les établissements scolaires dans la cité impériale.
On savait bien que les parents d'élèves, que les syndicats envisageaient cette fermeture et l'attendaient. Le retour des vacances de février, tout le monde l'appréhendait en Corse, forcément. Hein. Il y a beaucoup de circulation à cette époque de l'année.
Je pense que c'est un mal pour un bien, il faut y passer pour éviter les problèmes qu'il y a en Italie. Quand on voit les problèmes qu'il y a en Italie, ça fait un petit peu peur quand même.
Éviter surtout un scénario catastrophe, une explosion des cas qui entraînerait une surcharge dans les hôpitaux. Alors hier soir, sur un plateau de télévision, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a pris son stylo et une feuille.
Ça, c'est le temps qui s'écoule. Oui. Ça, ça va être le nombre de malades.
Pour expliquer la stratégie du gouvernement.
Vous arrivez à voir, très bien. Dans une épidémie classique, vous avez un départ de l'épidémie qui va faire une courbe, qui va monter comme ça, qui va faire un arrondi et qui ensuite va décroître jusqu'à la fin de l'épidémie. Donc vous voyez que dans un pic épidémique classique, on risque d'avoir trop de malades par rapport aux malades qu'on est capable d'accueillir, ce que rencontre l'Italie dans certains territoires. L'objectif de notre politique, ce qu'on appelle le freinage, c'est de retarder le pic épidémique, ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent, de manière à ce qu'on soit toujours en dessous du seuil de saturation, et de manière... Donc ça veut dire que l'épidémie, elle est beaucoup moins violente, beaucoup moins intense. C'est ça les mesures qu'on prend. Elles sont proportionnées à cette situation.
Avec des mesures prises au cas par cas. À Paris, par exemple, une contamination au Covid-19 chez une élève de CE2 a entraîné la fermeture de certaines classes dans cette école primaire. Mais pas de tout l'établissement. Contrairement à ce qui est en vigueur dans d'autres zones plus touchées.
Si vous faites les choses de manière aveugle et générale tout de suite, là, vous risquez de paralyser le pays. Et en paralysant le pays, vous pouvez pas combattre le virus, notamment, vous voyez, si vous êtes une infirmière et que vous élevez un enfant ou plusieurs enfants et que toutes les écoles sont fermées, vous ne pourrez pas aller au travail. Si vous ne pouvez pas aller au travail, vous ne pouvez pas contribuer à soigner.
Hors de question également de mettre les trains et les métros en quarantaine. Pour l'instant, les gares et les aéroports restent des exceptions notables à l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Mais qu'en sera-t-il demain ? Pour l'exécutif, c'est une gestion au jour le jour, au rythme de ce petit ennemi invisible qui a déjà infecté au moins un membre du gouvernement, le ministre de la Culture, Franck Riester.
Et cette question, l'Assemblée nationale constitue-t-elle un nouveau cluster ?
Oui, il y a sept députés. Alors, ça montre que la politique et les élites, en général, ne sont pas immunisés contre ça, épargnés contre ça. Mais c'est vrai qu'on sent une mobilisation autour d'Emmanuel Macron, autour des ministres. Il y a un ministre, donc le ministre de la Culture, qui l'a. Et puis, il y a peut-être un doute sur la ministre de la Justice aussi. Donc, voilà,
ça change quelque chose, ça ? Je veux dire, en termes de communication, il y a eu beaucoup aujourd'hui de communiqués expliquant que le président ne voit plus quelqu'un, maintenant ses interlocuteurs restent à un mètre, qu'il a limité ses réunions. On va parler dans un instant de la réunion européenne qui se fait par visioconférence.
Peut-être que ça va éviter de minimiser s'il y a cette tentation-là, si on est soi-même concerné, parce qu'encore une fois, on sent qu'il y a les deux, à la fois se préparer au pire et à la fois continuer à freiner, il y a la courbe d'Olivier Véran, freiner sans se mettre en position urgence absolue.
Avec cette idée développée par Jean-Michel Blanquer, qu'on vient d'entendre à l'instant, de dire on peut très bien gérer au cas par cas, c'est-à-dire on continue à garder le fil sur les contaminations, etc. Et on va fermer une école dans tel arrondissement, une école dans telle région, dans tel département, mais pas de mesures à l'italienne.
Même chose pour les transports, pour le métro, pour les trains. C'est cette obsession de la circulation. Il faut que les personnels hospitaliers puissent circuler et se rendre à l'hôpital. Et il faut que, voilà, et que les produits aussi puissent circuler s'il y a besoin, les malades, enfin. Donc, en gros, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'il y a des consignes très différentes, d'abord, selon les endroits, et puis selon votre statut, si vous êtes bien portant et si vous êtes malade. Et c'est ça qui est compliqué à faire passer.
Je rappelle que vous parliez des personnels médicaux qui doivent circuler. Médecins et infirmiers sont conviés à rejoindre la réserve sanitaire. Ça, c'est prévu quand on a besoin de tout le monde sur le pont.
Ben, la réserve, hein, la réserve, c'est quand on est en guerre.
C'est ça. Il y a des
étudiants. On en parlait tout à l'heure.
Et le couvre-feu aussi, c'est quand on
et
est
le
en guerre.
Aussi.
Les étudiants en médecine ont été mobilisés dans les SAMU pour donner les conseils aux gens. Et là, les médecins retraités depuis moins de 5 ans sont tous appelés à rejoindre le dispositif.
Oui, en fait,
sur la stratégie française.
Sur la stratégie française, bon, il y a deux choses. Il y a Ce qui est marquant dans cette histoire d'épidémie, c'est que les pays qui, au départ, la Chine, vous avez parlé de Taïwan, de Hong Kong, qui ont pris des mesures drastiques, c'est-à-dire qui n'ont pas hésité politiquement à prendre ces mesures, sont des pays qui avaient connu une crise grave au moment du SRAS. Nous n'avons pas connu une crise grave au moment du SRAS. Et donc ces pays qui ont été extrêmement marqués par cette expérience n'ont pas hésité à prendre des mesures optimales au départ. Et la question, c'est de savoir effectivement si les mesures optimales ne doivent pas être prises très tôt. Les mesures maximales ne doivent pas être prises très tôt. La France, elle, a choisi une autre stratégie, qui est de dire on va monter progressivement en puissance. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, c'est avec beaucoup de recul, malheureusement, qu'on saura qui avait raison. Aujourd'hui, on ne le sait pas. D'accord. Mais dans 3 mois, quand on va faire les comptes des pays qui ont été le plus atteints et qui ont payé le plus lourd tribut en termes de mortalité, alors à ce moment-là, on pourra savoir quelle a été la stratégie gagnante. Et malheureusement, la Chine, je dirais, est en train de montrer que c'est des mesures optimales très tôt, et c'est le cas aussi de Hong Kong et de Singapour, ne sont efficaces que quand elles sont prises au tout début. Et c'est peut-être ce qu'est en train de vivre l'Italie, c'est que les mesures maximales sont prises, mais peut-être avec du retard. Et encore une fois, ce n'est pas une critique. Mm-hmm. Je sais à quel point c'est difficile et à quel point notre gouvernement est aussi en difficulté.
Absolument. Mais justement, il y a un calendrier, c'est-à-dire que ça a duré combien de temps en Chine ? 48 jours, le confinement de Wuhan.
C'est pas fini.
Et c'est pas fini. Le confinement, les mesures de confinement pour
jusqu'à
l'Italie.
Jusqu'à la première semaine d'avril, voilà. Pour l'instant.
Pour l'instant, jusqu'à la première semaine d'avril.
Le calcul des Chinois, c'est ça dure 12 semaines. Ça dure 12 semaines à partir du moment où ils se rendent compte de la pandémie, puisqu'elle commence évidemment bien avant, avec les fameuses 3 semaines de retard dues à la bureaucratie locale de Wuhan, parce qu'il y a eu en fait 2 phénomènes. Un phénomène où les locaux ont caché la réalité à Pékin, et puis le moment où Pékin a pris en main le sujet et a commencé à diffuser, tous les jours on reçoit de très nombreuses études scientifiques de très grande qualité venues des Chinois analysant les phénomènes. Ça dure 12 semaines. Au bout de 12 semaines, on est à un plateau.
Oui.
Et puis ensuite, ça redescend. Et il y a un risque, c'est que les gens oublient. Ils sont contents, ça y est, c'est fini. Et à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une replise ou une réplique qui recommence un petit peu avant que ça soit véritablement fini. Alors, il y a 2 phénomènes. D'abord, la saturation, c'est-à-dire que tous les gens contaminables ont été contaminés, et donc ceux qui n'ont pas eu d'effets secondaires, c'est fait. Les autres, ils en sont sortis ou malheureusement pas sortis. Et donc, il y a un phénomène d'asphyxie. Il n'y a plus d'oxygène, le feu s'éteint. Mmh. Mais tout ça sont des processus qui durent en moyenne...
C'est ça, c'est très long.
3 mois pour le pire et 6 mois... pour la gestion pandémique totale. D'après les dernières analyses, vous en avez une ici, reçue récemment hier des Chinois, qui montre à peu près comment ils imaginent le sujet. Donc, on est dans un processus relativement long. Et je crois que
ça, pour le coup, la France est très transparente là-dessus, à commencer par le président de la République, qui ne cesse de dire ça va durer et on est au début de l'épidémie.
Chacun est dans son métier, en fait. Les experts sont en expertise, les politiques prennent des décisions. Il y a une pédagogie de l'acceptation. Et comme Madame l'a rappelé tout à l'heure, nous n'avons pas connu de grande crise pandémique depuis très longtemps. On a oublié ce que c'était. On ne peut pas remettre le couvercle sur la population comme si de rien n'était, d'une manière brutale. Donc, de toute façon, il y a un petit mouvement à la godille qui est obligatoire dans ce type de gestion. Et comme elle le dit très bien, dans 6 mois, dans 1 an, quand on fera le bilan de cette crise, on saura qui a raison, qui a tort. Et peut-être
que tout le
monde a eu raison.
Quel bilan est-ce qu'on fera ? Parce qu'on voit bien que le gouvernement est en train de faire... d'essayer de marcher sur ses 2 jambes, c'est-à-dire à la fois garder une activité dans le pays, parce qu'il y a des conséquences économiques qui sont très lourdes, et en même temps, évidemment, gérer la priorité sanitaire. Est-ce qu'on peut gérer ces 2 crises, crise sanitaire et potentielle crise économique, en même temps ? C'est ça qu'essaie de jouer la France, là où l'Italie a dit la priorité, c'est la crise sanitaire.
Encore une fois, nous n'avons pas l'impact sanitaire que voit aujourd'hui l'Italie, et c'est un élément qui a été déterminant. Je voudrais rappeler que la dernière crise, entre guillemets, qu'on a connue, c'était la grippe porcine H1N1, et que, avec du recul, parce que c'est toujours avec du recul, on a beaucoup critiqué le gouvernement d'avoir surréagi. Vous rappelez que la ministre de la Santé s'est fait vraiment brocarder en disant qu'on avait surréagi à une petite grippe. on comprend vraiment la difficulté de prendre des décisions, et surtout des décisions en temps utile, parce que c'est ça. Il y a vraiment un effet temps. Effectivement, quand il y a trop de morts, c'est peut-être trop tard. Et donc, c'est vraiment une difficulté importante.
Mais je crois qu'on l'a bien compris ce soir, que la volonté, c'est pas de, voilà, de dire qui a raison, qui a tort, à l'heure où on se parle, non. Mais c'est d'analyser non. comment font les uns et les autres. Et d'ailleurs, je vous donne des éléments pour alimenter le débat, notamment la Pologne qui a imposé des contrôles sanitaires à ses frontières, la Slovénie qui ferme ses frontières. C'est qu'on a eu aussi cette polémique sur, eh ben, on va limiter le nombre d'entrants. Voilà, on voit bien que l'Europe essaie de se concerter au niveau économique, peut-elle se concerter au niveau sanitaire? Est-ce qu'elle veut le faire? Est-ce qu'elle peut le faire? Est-ce qu'il peut y avoir au moins une solidarité entre les pays pour faire face à ceux qui sont le plus touchés?
Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Si le gouvernement français a décidé de saisir les masques produits en France, c'est parce qu'elle avait peur qu'ils soient achetés par la Chine et par d'autres pays. Et l'Italie a demandé des appareils de ventilation à ses voisins qui ont dit non. C'est un peu chacun pour soi en ce moment. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, si la France est dans un entre-deux, c'est pas pour ménager le sanitaire et l'économie. Enfin, l'argument, c'est de dire que c'est aussi pour des raisons sanitaires qu'il ne faut pas bloquer le pays. Et le gouvernement dit beaucoup. En Italie, si ça a explosé d'un coup, c'est parce que les mesures de confinement des villes lombardes, tout ça, ont engorgé elles-mêmes le système hospitalier, parce que les personnels pouvaient plus venir travailler, etc.
Mais on voit bien que dans tous les pays, il y a cette hésitation. Donald Trump lui-même a commencé par dire « bon, c'est une petite grippe », avant d'annoncer sans doute aujourd'hui des mesures extrêmement fortes pour soutenir l'économie et pour faire face au virus. On voit qu'il hésite. L'Espagne a commencé en minimisant d'une certaine manière la contamination et aujourd'hui semble changer totalement de stratégie. Il n'y a pas un pays qui réussit tout seul et qui a la bonne recette.
Et je ne pense pas qu'au cœur de la réflexion du gouvernement, il y a le problème du déplacement des équipes médicales et paramédicales. Rappelez-vous qu'on vient de vivre un autre événement qui est la grève des transports publics, et je dois dire que à ce moment-là, et c'est assez remarquable, les personnels soignants se sont débrouillés pour venir travailler, parfois en se levant 3 heures avant. Donc je ne crois pas du tout que ça soit l'élément essentiel de la réflexion et de la décision.
Les mots qui sont utilisés par Jean-Michel Blanquer tout à l'heure, c'est dire on ne veut pas bloquer le pays.
Alors là encore, on se retrouve dans quelque chose qui fait partie de l'anticipation dans les plans pandémie. On sait très bien que, effectivement, dans ce type de situation, il s'agit de garder l'activité des services essentiels. De façon dégradée. Donc ça, à la limite, le gouvernement sait faire. Ou en tout cas, il a travaillé sur ce scénario, qui est effectivement d'avoir dans les activités indispensables à la survie de la nation, un personnel suffisant, quitte à utiliser le télétravail de façon importante pour une partie de ce personnel.
Paolo Lévy, le pays n'est pas bloqué, l'Italie n'est pas bloquée, ou est-ce que, enfin, je veux dire, par exemple, l'acheminement des marchandises, est-ce que, sous certaines conditions, certains ont le droit d'aller travailler?
Oui, certainement, mais bon, c'était un pays, vous savez bien, dont l'économie, l'état économique n'était pas déjà très réjouissant. Là, le risque de récession, franchement, il est très probable. Probablement, il y a un risque de récession qui concerne pas seulement l'Italie, mais qui concerne l'Europe entière. Aujourd'hui, l'Europe, je pense, doit comprendre qu'il est grand temps de réagir ensemble. L'Europe doit réagir à l'obligation aujourd'hui de réagir comme une seule nation.
Et de concerter, y compris ses politiques.
Comme une seule nation, parce qu'on est tous... On va pas nous, comme le disait Alan Bauer, on ne va pas nous refaire le coup du nuage de Tchernobyl. On est tous exposés à la même menace et on doit tous réagir ensemble, unis. Et je me demande, il y a aussi un alignement des astres, parce que, bizarrement, il y a eu le Brexit il y a quelques semaines. On est finalement libre de rêver aux États-Unis d'Europe. Et si on ne les construit pas maintenant, on ne les fera jamais plus dans la
vie. C'est la bonne nouvelle du jour, celle à laquelle, en tout cas, tout le monde a envie de croire. La propagation de l'épidémie est pratiquement jugulée. Ces mots sont ceux de Xi Jinping, qui s'est rendu pour la première fois à Wuhan, l'épicentre de la contamination, où la population, après des semaines de quarantaine, a bien du mal, elle, à croire à l'embellie. Paul-Rémy Barjavel, Mathieu Lignot et Diane Cacciarella.
Visite surprise du président chinois à Wuhan.
Masque sur le visage, Xi Jinping s'est rendu dans un hôpital. Il a discuté avec des malades et du personnel soignant lors d'une visioconférence. Une première depuis le début de la crise sanitaire et l'occasion de lancer un message.
La propagation de l'épidémie est pratiquement jugulée.
Signe que la situation s'améliore, à Wuhan, certains hôpitaux de fortune ferment leurs portes. Les patients quittent leurs soignants.
Après avoir fait connaissance, il est difficile de se dire au revoir. Un lien s'est tissé entre nous.
En quarantaine depuis le 23 janvier, la ville de Wuhan reste particulièrement surveillée par les autorités. Le confinement au sein de la province du Hubei est lui assoupli. Mais les véhicules qui quittent la région sont encore très rares. De l'autre côté de la rive, à Yueyang, les habitants craignent la contamination.
J'ai peur des habitants du Hubei. Si ce sont des gens que je connais, ça n'a pas d'importance. Mais ceux que je ne connais pas ne sont pas autorisés à entrer dans ma boutique. Je reste ici et je surveille. Si je ne vous connais pas, vous devez rester dehors et très, très loin de moi.
Pourtant, le nombre de malades en Chine se stabilise. Au dernier bilan, plus de 80 700 contaminés et 3136 personnes décédées. Seulement 19 contaminations sont recensées aujourd'hui. Un chiffre à son plus bas niveau depuis le mois de janvier.
9 provinces n'ont signalé aucun nouveau cas pendant plus de 14 jours consécutifs. La situation générale est stable et la prévention et le contrôle des épidémies s'améliorent.
Les mesures drastiques de confinement et de quarantaine prises semblent donc porter leurs fruits. Depuis hier, dans les plus grandes villes du pays, les habitants retournent petit à petit travailler.
On fait attention au bureau, à ce que les distances soient raisonnables entre les employés. C'est très strict. Chaque jour, nous devons donner nos numéros d'identification et faire vérifier notre température.
La situation est plus rassurante. Il y a un peu plus de gens dans le métro, mais je vois qu'ils restent à bonne distance les uns des autres. On fait tous très attention à cela.
Pour Pékin, il s'agit de remettre le pays au travail et relancer les usines. Le régime veut rassurer le monde sur sa santé économique.
Ce qui inquiète le plus Pékin, c'est que cette crise du coronavirus, et ce sera peut-être le cas, est servie en quelque sorte de choc pour l'ensemble de l'économie mondiale. On a énormément parlé de la remise en cause d'une globalisation, non pas de la globalisation en tant que telle, qui est difficile à totalement supprimer, mais en tout cas une globalisation qui était quasi totalement, on le voit dans certains secteurs comme les médicaments par exemple, focalisée sur la Chine et avec l'idée qu'il faut multiplier les sources de production.
Depuis le début de la crise sanitaire, l'économie est à l'arrêt. Selon les douanes chinoises, sur les deux premiers mois de l'année, les exportations du pays se sont écroulées de plus de 17% par rapport à l'année dernière.
Non, pas forcément.
Question, l'amélioration en Chine est-elle un mensonge d'État ? Alain Boer.
Non, je crois qu'il y a eu une communication difficile pour la Chine. D'abord parce que Pékin a été pris par surprise par cette affaire, ne l'a pas vu venir, a commencé à être totalement... dans un premier temps, pensant que c'était un complot, dans un deuxième temps, se rendant compte que son administration locale lui mentait, car il se trouve que Wuhan, c'est un endroit symbolique en Chine. C'est un endroit d'où vient la première peste, et c'est censé être le message du ciel à l'empereur. Donc personne n'a voulu expliquer à l'empereur, le président Xi Jinping,
qu'il y avait un message,
surtout celui-là. Ensuite, début janvier, ils se sont rendus compte de l'ampleur du sujet. C'est le moment où d'ailleurs le médecin qui avait été arrêté pour complot contre la sûreté de l'État est devenu un héros. Puis est décédé. Du fait de son action déterminée, pour faire savoir ce qui se passait et deux, pour agir. Et donc, depuis, les Chinois font un effort de transparence, de diffusion, d'information, de détails, de production
donc
scientifique.
Donc, on peut les croire quand ils disent que ça va mieux.
Remarquable. Non, ils sont arrivés à un plateau. Ils disent pas que, voilà, ils disent que c'est jugulé, ils disent pas que c'est terminé.
Non,
c'est un
pratiquement
plateau.
Jugulé.
Et donc, ce que eux-mêmes disent, c'est le petit document en question, c'est qu'ils disent, voilà, c'est en train de redescendre, il y a un vrai risque, c'est qu'il y a une reprise technique, parce que les gens vont oublier les mesures parce qu'ils vont être tellement contents d'en être sortis qu'il va y avoir une reprise potentielle et il faut faire très attention. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez et cette production massive de masques.
Ils ont tous
des masques. C'est assez impressionnant. Hein.
Oui. Ouais. Et dans le reportage, on entendait qu'ils respectaient les consignes, c'est-à-dire rester à bonne distance les uns des autres.
Ça, je crois que c'est un élément tout à fait important d'ailleurs qu'on a entendu ces derniers jours. C'est qu'au-delà des mesures que doit prendre le gouvernement en nous disant on va interdire les rassemblements, etc., il y a des mesures dont on peut avoir nous-mêmes l'initiative. Et l'initiative, c'est de se dire, effectivement, on va pratiquer la distance sociale, c'est-à-dire on va, effectivement, respecter une distance de sécurité entre les gens de 1 à 2 mètres, qui permet réellement de diminuer le risque de contagion.
C'est pas facile dans le métro, Nicole Crémieux.
Ma mère est allée au supermarché ce matin à Rome, et elle me racontait qu'il s'est rentré 6 par 6. Parce que pour avoir justement cette distance de sécurité, dans les pharmacies également, 3 par 3.
Exactement. Et dans. Absolument. C'est peut-être pas si simple pour tout le monde, mais de fait, c'est un conseil qu'on peut appliquer au maximum.
Et ça, ce sont des consignes sur le civisme et sur les mesures qu'on peut s'appliquer d'abord à soi-même avant de prendre des mesures à l'échelle d'un pays. Ça, c'est un message qu'a porté le président de la République aujourd'hui.
Oui, tout à l'heure. Il y a un sondage qui dit que 75% des gens continuent à se donner la main pour se dire bonjour. Mais effectivement. Il retient de l'exemple italien, ces deux peuples rebelles, que pendant longtemps, les Italiens et maintenant les Français, même s'ils sont malades, même si on leur dit vous venez d'une zone à risque et il faut que vous restiez chez eux, ben, en fait, ils ne vont pas au travail, mais ils vont quand même voir des parents et dans les cafés. Donc, il a eu vraiment un message appuyé aujourd'hui pour dire le civisme, c'est quand vous avez un peu de fièvre, vous êtes restez malade, vous restez chez vous.
Et on parlait de la Chine, je voudrais juste terminer sur ce communiqué de l'OMS qui explique que la Chine est en train de maîtriser l'épidémie. Nous revenons maintenant à vos questions. L'Europe est-elle cohérente et unie face à cette épidémie ?
Non, chacun pour soi.
Chacun pour soi.
En termes sanitaires, oui, j'ai vraiment l'impression que c'est le chacun pour soi. Ils se regardent, mais il n'y a pas eu tellement de coopération.
Et en termes économiques, il y en aura peut-être
alors
de la concertation.
Ça c'est autre chose. Et est-ce que le commissaire italien à l'économie va autoriser des largesses budgétaires ? Ça, c'est la grande question.
Une chose quasiment sûre, je pense, c'est qu'on sortira de cette crise en abandonnant la fameuse règle des 3%. Parce que c'est
temporairement.
Ça sera la première victime, disons, de cette crise sanitaire, dans l'espoir aussi de construire une nation européenne. On n'en peut plus. Avec ces petits pays, on n'arrive pas à gérer les grands défis de l'avenir.
Qui décide du passage au stade 3 et sur quels critères, Anne-Claude Crémieux ?
C'était un peu paradoxal parce que quand on entend le président, il nous dit qu'on est au début d'une épidémie, au fond, au début du stade 3. D'ailleurs, dans le plan pandémie, le stade 3, c'est quoi ? C'est l'augmentation rapide du nombre de cas. On y est.
Alors, c'est toujours cette volonté de ménager aussi l'opinion publique, d'éviter
la panique.
Ouais. La panique.
Moi, je m'inscris complètement en faux.
Dans la stratégie.
Dans l'esprit, peut-être des dirigeants, mais là encore une fois, le risque, c'est d'introduire de la confusion. À un moment où effectivement tout le monde doit être conscient que le risque existe et qu'il faut pratiquer la distance sociale et qu'il faut prendre un maximum de précautions pour protéger les autres quand on est malade, c'est parfois bien de dire mais nous sommes en épidémie.
D'autant qu'Emmanuel Macron dit entre les mots qu'on est en stade 3 dans certains endroits et pas dans d'autres.
Le plus intelligent n'aurait-il pas été d'empêcher les avions de voler il y a 2 mois ?
Nous, on l'a fait en Italie.
Vous l'avez fait, ça a rien
changé. Et on est le pays le plus touché après la Chine, ou en tout cas, où le majeur nombre de cas a été certifié. Donc, peut-être pas.
En tout cas, il y a pas mal de compagnies aériennes qui ont suspendu leur vol en direction de l'Italie aujourd'hui, des compagnies européennes, et notamment Air France, on vient d'apprendre cet après-midi. Le président, ses ministres et ses proches collaborateurs ont-ils été testés ? Cécile Cornudet.
Olivier Véran, oui, le ministre de la Santé. Il y a manifestement un conseiller d'Emmanuel Macron qui est confiné, c'est-à-dire qu'il a été
proche. Son
directeur de cabinet. Il a été en contact avec quelqu'un qui a le virus. Du coup, il est confiné chez lui pour protéger le président. Ils ne disent pas qu'ils ont été testés, parce que comme normalement, il n'y a pas de test systématique, il ne faut pas donner le sentiment qu'ils ont un privilège là.
Même pour le président de la République ?
Je sais pas.
Est-on certain que rester confiné 15 jours chez soi empêche la propagation du virus ?
Rester confiné 14 jours chez soi, après avoir eu effectivement un contact avec quelqu'un qui est malade ou après avoir été dans une zone d'intense contamination, c'est vraiment une bonne mesure. Et on l'a dit, pourquoi ? Parce que effectivement, on peut avoir des cas peu symptomatiques, mais qui vont se déclarer pendant ces 14 jours. Donc effectivement, 14 jours... rester confiné.
Et ce qu'on a trouvé mieux pour limiter aussi l'épidémie.
Non, c'est une mesure, alors là, unanimement reconnue comme étant une mesure importante dans le contrôle de cette épidémie.
Après, c'est pas mal non plus. C'est l'occasion de lire, par exemple, La recherche du temps perdu de
14 jours, je ne sais pas si ça suffit.
Non, peut-être ça suffit. Mais moi, je suis toujours en chat avec des potes qui sont confinés maintenant à Milan. Oui. J'ai un ami notamment. un génie qui travaille dans une banque d'affaires et depuis 10 jours, il est confiné à la maison. Et il est très positif. Tout d'abord, il a dit, mais c'est une extraordinaire opportunité pour nous, en tout cas les travailleurs des services du tertiaire, de tester les nouvelles technologies, l'innovation. Oui. Et peut-être c'est aussi une
esquisse. C'est vrai que sur le télétravail, il y aura un avant et un après.
Télétravail et tout ça. Et,
comme et, tout après-guerre.
Donc voilà. C'est peut-être aussi, disons, une esquisse de ce que sera peut-être notre société à l'avenir. Et après, la deuxième chose, un peu plus rigolote, mais flippante aussi, c'est-à-dire qu'il a dit « ma vie sociale est complètement dématérialisée ». C'est-à-dire que lui, le soir, il se fait des verres de vin rouge avec ses potes, seulement qu'il prend le verre, se met en face de l'écran du Skype et il papote comme ça, chacun chez lui, même s'ils habitent à 600 mètres de
distance. Il trouve quand même une forme de convivialité.
Ouais, non, oui, donc, il était hyper positif.
Alors, les pays chauds sont-ils moins atteints ? Elle est importante cette question parce qu'on a vu des cartes dans la presse ces derniers jours où on voyait qu'effectivement il y avait un continent, notamment le continent africain, qui était plutôt protégé du coronavirus.
Alors pour l'instant, effectivement, on a l'impression d'en détecter moins, mais encore une fois, il y a toute l'interrogation de savoir si c'est qu'il y en a moins ou si c'est moins détecté. Pour terminer sur les leçons de cette crise, que j'espère quand même, c'est qu'après la crise, on n'oubliera pas l'importance d'avoir un système sanitaire public solide, parce qu'effectivement, on l'a vu et on le verra, de ce système et de la solidité de ce système sanitaire dépendra la morbidité et la mortalité.
Si l'on en croit Alain Boer, en général, après une crise comme celle-ci, on oublie, c'est ça ?
Malheureusement.
Oui, mais on pourra en profiter pour faire... on a fait la communauté européenne du charbon et de l'acier, on a fait la communauté européenne de n'importe quoi, on pourrait faire un service central de maintien, par exemple, de milliers... de défibrillateurs, de milliers de ventilateurs, d'outils nécessaires. Évidemment, on ne va pas stocker des gens, mais stocker du matériel, c'est un des éléments que l'Europe peut faire. Vous voyez, la banque a appris ça quand il y a eu l'incendie du Crédit Lyonnais. Elles avaient toutes financé une salle de marché commune pour gérer le cas où un jour, éventuellement, un incendie arriverait. Pas parce qu'ils attendaient un incendie, au cas où. Ça s'appelle l'assurance. Ce qui est terrifiant dans le système européen, c'est qu'ils s'occupent d'à peu près tout, sauf des choses essentielles. Et donc, moi, je comprends bien qu'il faut s'occuper de la teneur du chocolat ou de sujets où on explique comment gérer le fromage aux agriculteurs. Mais en matière sanitaire, qui est un sujet non difficile,
c'est vrai que c'est criant.
Non compliqué, ils auraient pu se lancer dans une opération préventive proactive, justement, préparation aux pandémies.
Alors, il y a beaucoup de questions, très vite. Je vois des clients de mon supermarché se ruer sur des produits de base et vider les rayons. Où est le civisme ?
Bon. C'est la peur, là, plus que l'absence de civisme. En tout cas, en Italie, il y a la consigne de faire du plein pour rester chez soi.
Pour éviter, justement, de se rendre dans son supermarché.
Pardon ?
Pour diminuer ses déplacements.
Voilà. Aussi.
Les personnes guéries sont-elles immunisées ?
Alors, oui, on a toutes les chances pour le... d'être immunisé après avoir fait l'infection. En tout cas, à ce jour, rien n'indique que ce n'est pas le cas. D'accord. Ce qui est plutôt rassurant.
J'ai un rendez-vous hospitalier demain. Je suis âgée de 81 ans et bien portant. Dois-je l'honorer ou privilégier une consultation téléphonique ?
Moi, je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que tout ce qui peut être déplacé pour des personnes âgées et extrêmement fragiles, tous ces rendez-vous, je pense qu'il faut les déplacer.
Bon, j'ai déjà mon billet de bateau pour la Corse cet été, dois-je l'annuler ? Michel, dans les Pyrénées-Atlantiques ?
Après, chacun prend ses décisions.
Allez, le Covid-19 pourrait-il muter et devenir mortel pour beaucoup plus de malades ?
Non, c'est compliqué de terminer avec cette question. Il va muter dans le bon sens.
Merci. Merci, Paolo Lévy, de nous aider à finir avec une note positive.
Mais oui, on va le battre, ce virus.
C'est la fin de cette émission. Je vous rappelle, ce soir, sur France 5, une émission spéciale consacrée au coronavirus, présentée par Marina Carrère-Dancos, qui sera entourée de spécialistes et qui répondra à toutes vos questions, car on l'a vu ce soir, vous en avez beaucoup, des questions sur ce sujet. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air.